pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Ce sont des scènes de la vie conjugale racontées du point de vue de victimes peu habituelles, quoique de plus en plus, à mesure que les inégalités entre les hommes et les femmes se réduisent. Des histoires de couples qui commencent bien et finissent mal, comme dit la chanson. Sauf que là, ce sont des scènes de violence, des mots, des coups, des vols, des mensonges, de la maltraitance, une forme spéciale de harcèlement. Sauf que là, ce sont deux hommes qui racontent aujourd'hui la violence conjugale de leur point de vue, qui n'est que la moitié de l'histoire, certes, même s'il y a quand même des faits, des dossiers, des avocats, des procès en cours ou rêvés. En Belgique, un centre d'accueil pour les hommes maltraités a été inauguré en mars 2015 dans la région de Malines, du côté néerlandophone du pays. Il n'y a certes que deux studios dans lesquels les hommes peuvent rester jusqu'à 6 mois, mais c'est un début, une expérience pour soulager autant les hommes que les couples dans leur puissance destructrice, leur force de négation. Dans ces petits appartements, les victimes masculines reçoivent une aide psychologique pour gérer le traumatisme, mais aussi pour mieux appréhender le retour à la vie seule, à l'indépendance, explique au Figaro une représentante de l'ONG dont ce centre dépend. La structure est payante, environ 25 euros par jour, et c'est une réplique de centres qui existent déjà en Allemagne ou en Suisse. En attendant que cela arrive jusqu'à chez nous, la condition des hommes maltraités en France a été rendue publique notamment grâce à l'affaire Maxime Gaget, dont la compagne violente a été condamnée à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve. Nous l'avions d'ailleurs rencontré dans Les Pieds sur Terre, nous avions diffusé son témoignage et c'est par son intermédiaire, par l'intermédiaire de Maxime Gaget, que nous avons également fait la connaissance d'Olivier et Joël, qui racontent aujourd'hui leur histoire jusqu'à 14h sur France Culture, des récits de Stéphanie Labadie.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Olivier, je suis chercheur, j'ai 50 ans. Et en 99, alors que je faisais une randonnée dans les Pyrénées, j'ai rencontré la mère de mes enfants dans un gîte d'étape. J'étais au bar et puis je l'ai vu arriver avec son fils et puis elle cherchait des renseignements pour faire des randonnées. Et puis moi, je me suis proposé pour faire une balade avec elle. Je lui ai montré que je connaissais bien les Pyrénées, que j'avais des cartes d'état-major assez précises et que c'était assez envisageable de faire une balade autour du pic du Midi d'Ossau. On a fait une balade le lendemain, puis elle m'a ramené à Paris en voiture, et puis petit à petit on s'est rapprochés l'un de l'autre tout le long de notre trajet, et on est tombés amoureux au cours de ce trajet, ouais, assez simplement. Et donc on s'est rapidement mis ensemble, on s'est installé ensemble chez elle, hein. Moi j'ai rapidement quitté mon appartement. On habitait à ce moment-là en région parisienne, sur Paris, et les choses étaient relativement simples. Tous les jours, j'allais à mon travail faire de la recherche. Elle faisait essentiellement de l'architecture, et elle tombe enceinte au bout de 4 ans de relations communes. L'accueil de l'enfant s'est bien passé, elle allaitait, enfin tout se passait, à mon sens, pour le mieux. On part en Italie parce que j'avais une position de chercheur qui m'était proposée en Italie, qui m'intéressait au premier plan. Et elle a trouvé une opportunité aussi pour travailler également en Italie. Donc d'un commun accord, on est parti là-bas avec le bébé sous le bras. Mon fils, il avait 3 ou 4 mois quand il est venu. Et au bout de 1 an, elle a commencé à avoir des crises d'angoisse. Anodine, parce que j'étais arrivé en retard, parce que j'étais bloqué dans des embouteillages et j'avais dû ramener des collègues. Et puis, 2-3 jours après, elle a eu une autre crise d'angoisse du même calibre. Et puis, et ça m'a vraiment surpris. Comme si elle ne voyait plus d'avenir, de futur, comme si tous ses rêves s'écroulaient et qu'il y avait une impossibilité totale d'avancer. Et elle fuyait toute possibilité d'être heureuse avec moi en tout cas. Moi, je me disais, bon ben, ça va passer, c'est peut-être un cap, il y a peut-être quelque chose, donc je la laissais tranquille, je sais que je ne la touchais pas du tout à ce moment-là. Alors moi, je m'occupais de mon fils, de plus en plus. Je me souviens, je changeais les couches le matin, avant de partir au travail, je changeais les couches dès que j'arrivais, c'est moi qui le nourrissais. Elle devenait de plus en plus incapable de gérer notre enfant, à tel point qu'elle est rentrée en France et elle ne pouvait plus s'occuper de notre fils. Elle est rentrée en France, moi je suis resté avec mon fils et je l'ai élevé tout seul pendant 6 mois en Italie. Elle l'avait complètement perdu de l'esprit. Donc au bout de ces 6 mois, je rentre en France et là, je réalise qu'elle me rejette en tant qu'homme, qu'elle me rejette en tant que père de mon fils, qu'elle me dénigre. Elle se laissait vivre de plus en plus. Elle passait ses journées sur ordinateur la plupart du temps. Ou alors, la seule chose qu'elle faisait, c'était de me surveiller. Surveiller mon emploi du temps, elle me chronométrait. Je devais lui dire quand je partais de mon travail et quelle heure j'arrivais. Et tout était infernal. Elle rendait les choses impossibles. Une fois, j'ai eu le malheur d'inviter des amis. Il y avait une tension palpable, tellement abominable, que j'ai compris que je pouvais plus du tout inviter d'amis. Mes amis se sentaient mal à l'aise à la maison. Petit à petit, je coupais mes liens avec mes amis. Et moi, je ne vivais plus, j'avais plus de sommeil. Enfin, j'arrivais à mon travail, je piquais du nez. J'étais plus du tout opérationnel en quoi que ce soit. Je craignais de passer des week-ends avec elle. Je haïssais les week-ends. Je me disais, oh zut, je vais encore passer un week-end, ça va être l'enfer. Vivement lundi matin. Et le lundi matin, j'étais heureux parce qu'enfin, je rencontrais des gens normaux avec qui je pouvais discuter à mon travail. C'est pas trop à qui se confier, on sait pas trop quoi raconter. Et c'est juste de la violence bien ordinaire. Un peu trop ordinaire, du reste. Elle est devenue très violente envers mon fils. Elle a essayé de le frapper en lui donnant des coups de poing pour une raison complètement dérisoire. Enfin, mon fils y jouait et puis ça l'énervait. Et moi, j'étais dans la salle de bain et je me suis interposé avec mon corps. J'ai fait bouclier de mon corps et c'est moi qui ai reçu tous les coups qu'elle voulait asséner à mon fils. Des coups de poing, oui. Dans mon esprit, c'était inconcevable. Je m'étais disputé avec elle, mais j'avais compris que ça n'avait aucun effet. Ça ne sert strictement à rien. Avec une personne raisonnable, vous pouvez vous disputer, vous mettre en colère. Il y a des messages qui passent. Là, il n'y avait aucun message qui passait. En même temps, je savais que si je partais avec mon fils, elle serait allée déposer plainte contre moi auprès de la police parce que dans notre société, la police n'imagine pas qu'une femme puisse être violente envers son mari, qu'elle puisse être violente envers ses enfants, et donc je ne savais plus. Il y a un moment où on ne sait plus, on n'est plus dans des choses logiques, cohérentes. On est dans un rapport de pouvoir. Alors on s'est séparé une première fois. Mais bon, moi j'étais encore amoureux d'elle, j'imaginais la femme que j'avais connue auparavant. C'était plus la même personne. Je pensais que la situation était rattrapable d'une façon ou d'une autre et que c'était à moi d'agir, c'était à moi de faire quelque chose. On s'est remis ensemble, on se voyait souvent et on a conçu notre fille. Et j'avais espoir que les choses se remettent d'aplomb avec cette deuxième grossesse. J'avais espoir que les choses redeviennent à la normale. Et non, la violence est revenue. Et j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que le respect qu'elle me devait était non négociable. J'ai fait un signalement à SOS Enfance Maltraitée. Alors je me suis dit, bon, ben, ils vont venir, ils vont débarquer, tout va s'accélérer. Pas du tout. On m'a pas cru, on m'a dit « Mais non, mais une femme, ça peut pas frapper ses enfants. Mais non, mais monsieur, faut aller vous faire soigner. C'est pas du tout ça ce qui se passe. Elle est juste un peu fatiguée. » Et petit à petit, j'ai compris qu'il fallait que je protège mes enfants. Donc ce soir-là, je me souviens, la mère des enfants voulait se promener avec notre fille qui devait avoir 5 mois à 10h du soir. Et j'ai appelé la police. Une heure après, les policiers sont venus. J'avais appelé aussi SOS Psychiatrie pour qu'ils viennent et pour qu'ils constatent le niveau de délire de mon ex. Et les policiers sont venus et m'ont dit « Écoutez, monsieur, ce soir, vous allez partir, vous allez aller ailleurs. » Et je suis allé chez mes parents. Et je ne suis plus jamais revenu. Sauf pour prendre mes affaires, et je suis parti. Je savais que je ne pouvais plus les protéger directement, que ça n'avait plus de sens si je restais, que tout allait se retourner contre moi. Il fallait que je m'extrais, que c'était le plus sage que je parte. J'ai compris que je devais partir moi en premier, et que les enfants, je les sauverais ensuite. Refaire un nid, refaire un endroit où je puisse accueillir mes enfants, refaire un endroit où je puisse atterrir sans me sentir en danger. Alors après, avec la justice, bon, on n'était pas mariés, heureusement, mais j'ai entamé un grand nombre de procédures judiciaires auprès du juge des affaires familiales. J'ai fait des signalements au procureur. La pédiatre des enfants a fait des signalements au procureur. On a été traité à la légère par le procureur. Quand ma fille a été enfermée dans le local ordure, le procureur a dit qu'elle n'outrepassait pas son droit à punir normalement ses enfants, en enfermant ma fille de 3 ans et demi dans un local ordure, dans le noir. Et ça, c'est inadmissible dans ce pays. Pendant 10 ans, j'ai dû combattre avec la justice qui faisait la sourde oreille, qui ne voulait pas reconnaître les violences de mon ex-compagne. Aujourd'hui, mon fils est... j'ai la garde de mon fils à 100%. Il y a encore des procédures judiciaires en cours. La justice a compris qu'il y avait une situation de violence. La justice commence à ouvrir les yeux, timidement, et j'espère qu'elle va permettre à mes enfants de grandir, de s'épanouir avec moi et que j'en aurai la garde complète.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Joël, j'ai 55 ans, j'habite en Ardèche depuis 3 ans et mon histoire est une histoire d'amour au départ qui va tourner mal. J'ai connu en fait ma femme dans les années 70 dans une petite ville de province. J'avais 8 ans, elle en avait 9. Je suis tombé de manière inexplicable, je suis tombé immédiatement amoureux d'elle. Elle avait un visage avenant, elle était souriante. Elle me semblait avoir une vision optimiste des choses. Et nos chemins vont se séparer au lycée, je vais avoir une première copine, elle va avoir un premier copain. Nous allons nous retrouver en 1982, je suis dans le début de mes études d'ingénieur, elle est étudiante à l'université en anglais. Nous nous retrouvons un soir où je jouais avec des amis pour animer un bal dans notre petit village. Et de nouveau, bien évidemment, c'est le coup de cœur d'enfance qui redémarre. Ça, je réalise mon amour d'enfance. Elle aussi semble amoureuse. Mais dès le début de cette relation, une première alerte pour moi, son manque d'appétence sexuelle. Mais mon amour, mon optimisme me disait, c'est des choses qui arrivent et c'est des choses qui peuvent s'améliorer. En 1986, on commence à travailler en région parisienne et en 1987, on se marie. Une union sans contrat de mariage à la demande des beaux-parents. Alors que toute ma famille me disait, Joël, fais attention. Mais j'étais amoureux, Je pensais absolument pas à mal, j'étais heureux de me marier. Je savais pas. Je ne savais pas que j'étais en train de donner les clés de ma vie à ma belle famille. Installant en région parisienne, je suis ingénieur des ventes dans une société de semi-conducteurs et assez rapidement, un an plus tard en fait, madame abandonne sa carrière commerciale pour se réorienter dans l'éducation nationale. Dans le même temps, ma femme, probablement grâce à sa réorientation, en arrive à me demander la création d'un compte joint. Nous aurons trois enfants, un premier garçon en 90, un deuxième garçon en 91 et une fille en 94. Cette période est encore une période heureuse, mais là de nouveau, outre nos problèmes d'intimité qui perduraient, ma femme rentre en conflit avec les voisins de la résidence où nous habitions et des conflits qui vont devenir de plus en plus fréquents et de plus en plus graves. Et les agressions de ce type vont se retourner également contre ma propre famille. Un jour où ma mère est présente à l'appartement, sous prétexte que j'ai une relation peut-être trop étroite avec elle, ou quelle que soit la raison, ma mère s'est retrouvée jetée de l'appartement à 7h du matin, avec ses valises étalées au milieu du hall, et je ne me rendais pas compte que j'étais déjà sous emprise. Ma femme exigeait de moi et surtout des trois enfants, en fait, un silence absolu dans la maison qui mettait une pression sur l'ensemble de la famille, mais considérable. Vous imaginez avec des petits-enfants qu'il faut arriver à tenir sans bruit parce que madame travaille ou parce que madame se repose ou parce que madame va casser à ses occupations. Et donc, pour moi, comme pour les trois enfants, c'était un enfer quasi quotidien. Vous ne voyez pas les choses arriver. C'est par petites touches successives. Et les choses anormales deviennent la normalité. Ce n'est que bien plus tard que je vais réaliser qu'en fait, toutes ces agressions, tous ces conflits, tous ces dénigrements n'avaient finalement que pour but d'asseoir sa propre confiance en elle, d'asseoir un pouvoir. Elle ne supportait absolument pas de se retrouver face à des gens qui lui paraissaient plus brillants intellectuellement ou plus confiants qu'elle. Et l'ensemble de ces conflits vont amener petit à petit un isolement social, sans même qu'on y prenne garde. Et dans la fin des années 90, je suis nommé directeur commercial et marketing Europe d'une division d'une société importante. Je fais 1,2 million d'euros d'actions. Je suis au bon endroit, au bon moment. À ce moment-là, je souhaite arrêter les dégâts. Je souhaite divorcer. Je l'annonce à ma femme, aux trois enfants, en présence de belle-maman. Mes enfants ont eu une réaction extrêmement adulte en disant « Mais papa, vu comme vous entendez, on pense que c'est la meilleure solution. » Ma femme, elle, a priori, ne réagira pas directement. En fait, elle avait une manière de fonctionner assez simple. Quand la pression devenait trop importante, elle relâchait la pression pour mieux la reprendre ensuite. Pris en biseau entre mes responsabilités professionnelles et mes responsabilités familiales, en fait, je ne vais pas mettre en œuvre le divorce. Et à partir de là, la violence va devenir incommensurable. Un an plus tard, en 2002, je tombe pour la première fois en dépression. Je suis arrêté pour 5 mois et c'est le début de 12 ans de traitement antidépresseur. Ma femme m'expliquait que j'avais probablement des fragilités professionnelles, probablement des fragilités psychologiques, probablement des choses à régler de mon enfance par rapport à ma famille ou à d'autres, ou d'autres explications diverses et variées. La réalité derrière était bien plus sordide. Pendant qu'elle me baladait chez les psychologues, ma femme a pompé 300 000 euros entre 1999 et 2010. Dans le même temps, achat immobilier, vente immobilière, une véritable balade chez les notaires, comme on prendrait un petit vieux à qui on ferait signer un testament de force. Je n'étais plus en état de défendre quoi que ce soit. Fragilisé, je perds mes emplois, je suis dans une situation de panique. Bien évidemment, la vie familiale est une simple horreur. Les enfants n'ont plus de père, le père passe sa vie dans sa cave à chercher du travail. J'ai essayé d'évoquer les choses avec ma femme, c'était tout simplement impossible. En lui disant, mais ce que tu fais, c'est l'équivalent d'arracher la peau à vif sur quelqu'un. Donc en 2007, je suis en fin de droit CEDIC. L'épargne est évaporée. Et fin 2007, début 2008, j'arrive à redresser la situation en prenant une mission de direction en Irlande. Et en 2009, je m'aperçois, alors que j'ai gagné 150 000 euros en 2008, que le compte joint est de nouveau en négatif. Au fond de moi, bien évidemment, je le sais, je n'arrive simplement pas à m'opposer à ce qu'elle fait. C'est une fuite en avant, une fuite sans fin. J'ai 70 000 euros à payer pour les impôts sur les revenus, le compte est en négatif, les enfants sont en début d'études supérieures, je sombre de nouveau. Et à ce moment-là, mon épouse organise une rencontre à trois avec son avocate, j'étais au plus mal, elles essayent de me proposer un protocole dit amiable où je repartais avec rien. Les choses vont aller extrêmement vite. Ma femme va vider les comptes et abandonner le domicile. Et à l'été 2012, on en arrive à la vente forcée du domicile, où je vivais avec les trois enfants. Différentes personnes autour de moi étaient paniquées en me disant « Il va finir par se suicider. » Il devait y avoir une petite lueur de vie qui restait au fond de moi, parce que au moment de commettre l'irréparable, j'ai tout d'un coup dit non, je peux pas. J'ai une donation entre époux. Si j'y vais, je donne en plus les clés des terres de l'Ardèche. Et les clés des terres, c'est une vieille maison que mes parents ont acheté dans les années 70, ils ont mis 10 ans à retaper cette vieille ferme, et je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas donner en plus cette maison. Cette maison m'a sauvé la peau. Et heureusement. Donc aujourd'hui, et depuis 2010, je suis au RSA à 450 euros par mois. En 2008, je gagnais 13 000 euros par mois. La réalité, elle est simple, c'est que ça fait 7 ans que je suis en procédure de divorce. Le divorce va se faire probablement en 2017 ou 2018. Et j'aurais passé 7 ans sans défense. Parce que, au RSA, donc impécunieux, un dossier considéré complexe, compte tenu de l'accumulation des faits. Et aujourd'hui, j'espère simplement arriver à faire reconnaître les faits, à arriver à des jugements équilibré.
Je n'en veux même pas ma femme. Quand je regarde cette histoire, je me dis...
Elle aura gâché une partie de ma vie, elle m'aura mise en difficulté, elle aura mis les enfants en difficulté, et en même temps, ça me fait sourire, parce que quand elle aura volé 300 000 euros, quels que soient les montants, elle aurait pu gagner beaucoup plus en soutenant son époux plutôt qu'en le détruisant.
Red ribbon on which we ride, carry a silver horizon. Sun as the sun setting night, puts on a phantom cloak, sing violet light and evoke the protection that violet evokes. Peace in your fall, curse on your soul, causes your fruit and flowers on. Red reaper on, justice comes, delivery, white bone demon. Oh, oh, begun the havoc in heaven. Oh, oh, begun the havoc in heaven. Deep in the green, see there is a weapon for me, a pin that is fixing the sea, a pair of shiny, and if I can pull it free, the cudgel is coming with me. Fasten, heave, ho, pillar of gold runs through the deepest, darkest stone. Cudgel and down, wave one tongue, bring on your force, white bone demon.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, scène de la vie conjugale, un reportage de Stéphanie Labadie, réalisé par Philippe Baudouin. Merci à Olivier, à Joël, à Maxime Gaget. Des commentaires, des réactions, des partages, c'est sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent avec impatience. C'est Sandrine Chaperon, bien sûr, l'attachée de production des Pieds sur Terre.
Don't believe your eyes when the maiden does arrive, you fool. She's the enemy. So woman old and wise, for truly she's the white woman. Demon's throne, we shall subdue her to bone, and ashes to ashes her home. Fasten your foe, curse on your soul, causes your fruit and flowers home, and in one blow, I smite down my foe, and ashes to ashes will come.